RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Mardi politique sur RFI et France 24. Et ce soir, nous recevons Julien Odoul. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du Rassemblement national et député de Lyon. On va commencer par une nouvelle qui est tombée il y a assez peu de temps. Vous m'avez dit, je souhaite en parler immédiatement. Il s'agit de cette otage israélienne, Shiri Bibas, qui était détenue avec ses deux enfants par le Hamas. Et le Hamas a annoncé, je le disais donc il y a quelques instants, qu'il ferait partie des corps qui seront remis à leur famille samedi prochain, ce qui signifie naturellement que ces trois otages, cette mère de famille et ses deux enfants, dont l'un des deux avait à peine 2 ans, sont tous les trois décédés.
Oui, cette annonce du Hamas est un drame absolu. Un drame absolu puisque le petit Kfir Bibas a été enlevé à l'âge de 9 mois. Enlevé à l'âge de 9 mois avec son frère, avec sa mère, avec son père, qui a été libéré il y a quelques jours. Et il aura passé la majeure partie de sa courte vie dans un tunnel sordide, en détention. C'est le symbole de l'abomination du 7 octobre 2023. C'est le symbole aussi de ce qu'est le Hamas, un groupe islamiste terroriste. Et moi, je suis profondément choqué de voir qu'une chaîne du service public en France, France 5 notamment, puisse se demander aujourd'hui encore si le Hamas est dangereux. Oui, le Hamas est dangereux.
Le Hamas,
bien sûr. Le Hamas est un groupe islamiste. Le Hamas est un groupe de barbares qu'il faut combattre, qu'il faut éradiquer. Et cette annonce bouleversante vient confirmer la réalité de ce groupe terroriste.
On va parler des premiers pourparlers entre les États-Unis et la Russie, de premiers pourparlers depuis le début de la guerre en Ukraine, qui ont eu lieu aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite. Est-ce que vous croyez à la volonté de Donald Trump de parvenir à une paix juste en Ukraine ?
En tout cas, il faut saluer le volontarisme de Donald Trump, puisque rien ne se passait avant son élection, et il a le mérite de vouloir essayer de faire aboutir la situation, de mettre les parties autour de la table. Ce qu'on peut déplorer, en revanche, c'est à la fois l'isolement de la France et c'est le fait que nous soyons mis de côté.
Quand vous dites nous, c'est la France toujours ou l'Europe ?
La France, vous savez, l'Europe, combien de divisions ? Ursula von der Leyen n'a aucune légitimité. On a bien vu d'ailleurs ces derniers mois et depuis le début de ce conflit que l'Europe était totalement impuissante pour parler à la fois d'une seule voix et puis pour, aller vers la paix, donc aller vers une conférence de la paix. C'était ce que demandait Marine Le Pen, notamment dès 2022, que de toute façon ce conflit ne pouvait pas se régler par les armes, que nous serions contraints d'organiser une conférence de la paix avec la Russie, avec l'Ukraine, avec les pays limitrophes, avec les États-Unis. Peut-être, et nous espérons effectivement que ça puisse aboutir et que les armes se taisent en Ukraine.
Mais ce qu'est en train de faire Donald Trump, est-ce que ça n'est pas d'une certaine manière légitimer ou relégitimer Vladimir Poutine après l'offensive qu'il a lancée contre l'Ukraine et qui est tout de même condamnable, non ? Enfin, a priori, chaque dirigeant de pays peut se dire « j'attaque le voisin », et puis ça passera, c'est un peu embêtant, non, tout de même.
Non, mais nous avons condamné de la manière la plus ferme l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Pour autant, la Russie est là, elle est aujourd'hui présidée par M. Poutine, et il faut faire avec. Et pour une négociation, et donc pour aboutir à une trêve et ensuite à des préliminaires de paix, il faut discuter avec la Russie. Nous ne pouvons malheureusement pas faire la paix sans discuter avec la Russie. D'ailleurs, j'observe que l'attitude de notre ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, est totalement absurde et irresponsable en disant « je ne parle pas au ministre des Affaires étrangères russe ». C'est totalement stupide. Il faut évidemment parler à toutes les parties et mettre toutes les parties autour de la table pour aboutir à un cessez-le-feu et à une paix durable.
Alors, toutes les parties, la question est posée depuis quelques jours de savoir si les Européens seront associés ou non à ces discussions. Il y a eu hier une réunion d'urgence de dirigeants européens à Paris. Aujourd'hui, les États-Unis ont laissé entendre que les Européens pourraient être associés aux discussions. Mais est-ce que vous croyez que l'Europe va être un véritable partenaire à part entière, respecté, entendu, dont la voix pèsera ?
En tout cas, il faut que la France, et je parle d'abord de la France, parce que c'est la France qui est une puissance et qui a toujours été une puissance d'équilibre, équidistante, et qui avait une voix singulière. Malheureusement, avec M. Macron, cette voix singulière s'est un petit peu estompée et nous avons été mis de côté. Mais oui, il faut que nous pesions, il faut que nous retrouvions une diplomatie claire, il faut que nous retrouvions cette place d'équilibre qui était, j'allais dire, la vocation de la France dans le concert des nations. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la France avait une voix qui portait. Il ne faut pas qu'on soit aligné, il ne faut pas qu'on soit vassalisé. Il faut que nous ayons un message clair et fort à dire au monde, et notamment dans le cadre de ces conflits et de ce conflit qui est proche de nous.
La situation dans laquelle nous sommes, d'une certaine manière, est révélatrice à plusieurs égards. D'abord, la faiblesse de l'UE, de l'Union européenne, ça, on la constate, mais aussi des visions très différentes aujourd'hui, puisque au moment donc où les États-Unis reprennent langue avec Vladimir Poutine, rétablissent des relations et sont assez même aujourd'hui font part d'un certain enthousiasme sur ce qui va se passer dans l'avenir, au même moment, l'Europe annonce elle un nouveau train de sanctions contre l'Ukraine, contre la Russie, pardon.
Oui, mais on sent bien, d'ailleurs...
Là, on va à U et à Dia.
L'Europe, c'est, encore une fois, je le redis, combien de divisions, puisque les avis sont divergents. Entre certains qui aimeraient envoyer des troupes au sol, entre d'autres qui sont plus mesurés, il faut éviter l'escalade. Il faut éviter d'envenimer la situation. Un conflit avec la Russie serait terrible, mortifère pour la sécurité de nos concitoyens, pour nos intérêts vitaux. Il faut, encore une fois, aller vers une négociation. Ce conflit ne peut pas se régler par les armes. Nous le savions depuis le début. L'Ukraine n'ira pas envahir Moscou et la Russie ne peut pas entrer à Kiev. Voilà. Donc il faut trouver, encore une fois, un modus vivendi. Il faut une négociation. Il faut mettre toutes les parties autour de la table. C'était le sens de la volonté de Marine Le Pen. Et je pense et j'espère que nous arrivions à cette solution.
Est-ce qu'on pourrait accepter, puisque c'est aussi un scénario qui est évoqué, est-ce qu'on pourrait accepter une paix négociée par les États-Unis, mais dont les Européens seraient chargés ensuite d'assurer, d'une certaine manière, la mise en œuvre et le suivi ?
Écoutez, pour le moment, toutes les cartes sont sur la table. Il est encore trop tôt pour le dire. L'idée et le projet, je pense, qui est partagé par tout le monde, c'est que les armes se taisent, c'est que le calvaire du peuple ukrainien s'arrête et qu'on sorte de ce conflit une bonne fois pour toutes, qui n'a que trop duré. 3 ans de guerre épouvantable à la lisière de l'Europe, il faut évidemment que ça se termine. Et les envolées bellicistes des uns et des autres ne font qu'attiser les tensions, n'apporte rien, si ce n'est se faire plaisir. Or, aujourd'hui, il ne faut pas se faire plaisir, il faut avoir un discours responsable, raisonnable, et ça passe par le chemin vers la paix.
Comment pourrait-on donner une crédibilité et une force diplomatique à l'Union européenne ?
Écoutez, l'Union européenne, aujourd'hui, qui est représentée par une personne non élue, Madame von der Leyen...
C'est pas la première, ça a toujours été
oui,
comme ça.
Oui, mais c'est moi ce que je reproche en tant que patriote et souverainiste. Moi, j'aimerais que mon pays, la France, retrouve son indépendance et sa diplomatie. Et j'aimerais que mon pays, la France, retrouve une voix qui porte et qui se détache, justement, des tutelles, qu'elle soit de Bruxelles, qu'elle soit de Berlin, qu'elle soit de Washington, de Doha ou n'importe où dans le monde.
Mais l'argument selon lequel la France, 75 millions d'habitants, c'est de cet ordre, face aux États-Unis, ou l'Union européenne, 450 millions d'habitants, une Europe unie, une Europe cohérente, qui parlerait d'une seule voix, est-ce qu'elle ne serait pas plus forte ?
Ce n'est pas une question de nombre, si je prends...
Ça joue quand même.
Non, ça joue oui et non, puisque nous sommes sur le continent européen, nous sommes la deuxième puissance démographique et économique, nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes une puissance nucléaire, nous avons, encore une fois, le deuxième réseau diplomatique du monde, donc nous sommes une puissance mondiale, cette puissance mondiale, malheureusement, est dirigée par de petits dirigeants qui ne croient pas notre souveraineté, qui ne croient pas notre indépendance. Et c'est ça le vrai danger. Et c'est ça, c'est là où le bât blesse.
François Bayrou est sous le feu des critiques depuis plusieurs jours maintenant dans l'affaire Bétaram. C'est le nom d'un établissement scolaire, collège, lycée catholique dans les Pyrénées-Orientales, donc dans le fief de François Bayrou, où ont eu lieu des comportements brutaux, des agressions sexuelles aussi, sur des élèves. Le Premier ministre est tous les jours sommé de s'expliquer sur ce qu'il savait. L'affaire est devenue très politique. Est-ce que pour vous, comme le dit un député de la France insoumise, nous sommes devant une affaire d'État ?
Pour l'instant, nous n'en savons rien. Il y a eu visiblement, manifestement, des comportements abjects, des victimes nombreuses. Il faut avoir une pensée pour elles, pour leur famille, pour un calvaire qui a duré visiblement des années. Pour autant, nous n'avons aucun élément aujourd'hui qui dise que François Bayrou a dissimulé ou n'a pas dit la vérité. Si c'est le cas, ce sera très grave. Ce sera très grave qu'il ait caché certaines choses, qu'il ait eu vent de ses comportements, mais pour le moment, il n'y a aucun élément. Donc, j'allais dire, faire de la mousse, comme la France insoumise le fait de manière outrancière, avec une récupération indigne, je pense qu'il se moque totalement, d'ailleurs, de la douleur des familles et des victimes, tout cela, évidemment, n'est pas au niveau des attentes, à la fois de nos institutions et surtout des familles.
Et la défense de François Bayrou à l'Assemblée nationale vous paraît convaincante ?
Non, malheureusement, la défense de M. Bayrou est assez poussive, il faut bien le dire. Il essaye de se justifier par des chemins assez tortueux. Et effectivement, quand on l'écoute encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça permette d'éclairer la situation, parce qu'il y a besoin de vérité, que toute la vérité soit faite.
Les élus, les Républicains, vont voter contre la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Pour Laurent Wauquiez, je vais le citer, parlant donc de Richard Ferrand, c'est une personnalité qui pose un problème d'éthique, un problème d'impartialité, et qui pose un problème parce qu'il n'a pas d'expertise juridique. Alors ce sont les membres des commissions des lois, Sénat et Assemblée nationale, qui vont être appelés à voter. Si j'ai bien compté, le RN dispose de 16 députés en commission des lois. Est-ce que une consigne de vote leur a été donnée ?
Pas pour le moment. Nous allons nos députés membres de la commission des lois vont auditionner le candidat Ferrand. Nous allons écouter et attendre de voir ce qu'il a à nous dire. Quelle est sa vision du Conseil constitutionnel, quel est son sens finalement de l'indépendance, de l'intégrité, est-ce qu'il va rompre avec la pratique et la philosophie de l'actuel président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Nous allons.
C'est-à-dire quelle philosophie, quelle pratique parlez-vous ?
Une pratique partisane. Voilà, Laurent Fabius, qu'il a assumé, a souhaité faire du Conseil constitutionnel un instrument, un outil de blocage par rapport à des politiques qui sont souhaitées par les Français. Je pense évidemment au projet de loi immigration qui a été totalement vidé de sa substance par le Conseil constitutionnel, et puis aussi en cas d'accession au pouvoir de Marine Le Pen et des Patriotes. Donc avant de prendre une décision, nous allons déjà écouter, auditionner Richard Ferrand.
Richard Ferrand a été, je crois, relativement apprécié par les députés comme président de l'Assemblée nationale, pour notamment son respect de l'opposition. Est-ce que ça peut plaider en sa faveur ?
Nous verrons. Vous savez, ce poste est déjà très symbolique. Il a gagné ces dernières années une importance dans nos institutions, dans l'organisation de notre vie démocratique. Donc nous attendons de voir et d'entendre sa vision précise du Conseil constitutionnel, s'il respectera tous les partis, tous les groupes, l'indépendance, le pluralisme, et si ce n'est pas effectivement un instrument de blocage qui ira contre la volonté des Français.
Laurent Wauquiez a dit dimanche qu'il ne considérait pas que, je vais le citer, je ne considère pas que le Rassemblement national soit la peste, je ne considère pas non plus qu'il faille un cordon sanitaire. Le seul désaccord, dit-il, est économique. Comment vous interprétez ces propos ? Est-ce qu'il y a Est-ce que ça ouvre des horizons ?
Non, je ne le pense pas, et je ne pense pas que M. Wauquiez ait envie d'ouvrir quelque horizon que ce soit avec le Rassemblement national.
M. Wauquiez, pourquoi dit-il ça, alors ?
Il le dit parce qu'il est dans une campagne interne face à Bruno Retailleau, qu'il est un petit peu décroché médiatiquement parlant, et qu'il a envie de faire parler de lui, tout simplement. Mais nous ne sommes pas dupes de ces discours. Alors après, il dit une vérité, effectivement, le cordon sanitaire est un non-sens et n'existe pas. Être au Rassemblement national...
Il a existé aux élections législatives.
Oui, c'était pas un cordon sanitaire, vous le savez. Ça a été un des désistements qui était anti-républicain,
oui,
qui ont montré...
Ça comme vous voulez, mais ça a été un mécanisme réflexe vous empêcher... d'accéder
mais
à
la réalité à l'issue de cette élection législative, c'est que le premier groupe à l'Assemblée nationale est le groupe du Rassemblement national avec ses alliés, que nous sommes le premier parti de France représentant 11 millions de Français, et qu'il ne peut pas y avoir de cordon sanitaire avec 11 millions de Français qui ne sont ni des pestiférés, ni des sous-citoyens, et qui méritent d'être respectés comme des Français à part entière, et non pas comme des Français totalement à part.
Ouais, vous l'avez dit, les ambitions de Laurent Wauquiez pour 2027 se heurtent à la popularité grandissante de Bruno Retailleau, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Lequel des deux serait le meilleur adversaire du RN dans une élection présidentielle ?
Les deux, il n'y a aucun qui sort du lot, puisqu'ils ont la même politique et la même lâcheté politique, surtout. Ce sont deux candidats de la parole qui aiment parler comme le Rassemblement national en campagne, sur les plateaux, à la tribune, mais qui agissent comme la gauche quand ils sont aux responsabilités. Monsieur Retailleau, dont on nous fait le nouvel homme fort de la droite, qu'est-ce qu'il a fait depuis 6 mois ? Est-ce qu'il a réduit les flux migratoires ? Non. Est-ce qu'il a engagé un rapport de force avec l'Algérie ? Non. Est-ce qu'il a interdit le voile pour les accompagnatrices scolaires, comme il l'avait dit ? Non. Est-ce qu'il a supprimé l'aide médicale d'État pour les clandestins, comme il l'avait dit ? Non. Donc on voit bien que derrière les effets de tribune, il y a le néant qui s'installe, et que c'est toujours les mêmes illusions et au final la même trahison.
Oui, à sa décharge, il a déjà été dans 2 gouvernements et la stabilité politique ne favorise pas forcément l'action.
Oui, mais justement, en matière de gouvernement, M. Retailleau a fait le choix de siéger avec des socialistes, avec des macronistes. Il siège à côté de M. Lombard, qui est ministre des Finances, qui veut taxer davantage, qui considère que l'immigration est une chance. Il siège à côté de Mme Méadel, socialiste, qui considère que sa ligne rouge, c'est la préférence nationale. À côté de M. Rebsamen, également. Donc, très clairement, comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui n'a aucune cohérence et qui, aujourd'hui, gouverne aux côtés de socialistes ?
Merci. Merci, Julien Andoul.
Merci à vous.
D'être venu dans...